Vous écoutez France Culture.
Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire du cheval dans la fabrique de l'histoire, une semaine un peu particulière puisque nous sommes accompagnés depuis le début de cette semaine par Daniel Roche, historien du siècle des Lumières, de la mode, du costume, des choses banales, mais qui se consacre depuis plusieurs années à une histoire de la culture équestre dans l'Europe moderne. Il vient d'ailleurs de publier le deuxième tome de cette histoire chez Fayard. Par ailleurs, tout un ouvrage composé de communications de ceux qui suivirent son séminaire, le séminaire de Daniel Roche au Collège de France, vient d'être publié chez Drose sous le titre de La Grande Chevauchée, peut-être pour rendre hommage au cavalier qu'il est. Avec lui et Jacques Mullier, lundi, nous avons débattu des difficultés de faire entendre cette histoire du cheval comme histoire totale dans notre société historique aujourd'hui. Hier, mercredi, Daniel Roche a dialogué avec Mathieu Flonneau de la place du cheval en ville au 20e et au 19e siècle. Et aujourd'hui, c'est à une rencontre avec le médiéviste Patrick Boucheron, maître de conférence à Paris 1, à laquelle nous vous convions avec Anaïs Quien, qui préparé cette semaine avec nous, Patrick Boucheron et Daniel Roche. Nous allons tenter d'évoquer l'Italie de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, d'où, entre gloire et puissance, s'est développée une certaine façon de concevoir le rôle et la place du cheval dans la société. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Bonjour Daniel Roche.
Bonjour.
Merci d'être encore avec nous et bonjour Patrick Boucheron.
Bonjour.
On vous connaît à la Fabrique de l'Histoire, vous venez souvent pour parler à la fois de fiction, d'histoire du Moyen-Âge et d'autres sujets. Et là, donc, Daniel Roche, lorsque nous avons préparé cette semaine avec lui, nous a dit « j'aimerais bien discuter avec Patrick Boucheron pour remonter un peu plus haut qu'à l'habitude lorsqu'on parle d'histoire du cheval, c'est-à-dire remonter à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, c'est cela, Daniel Roche ?»
Exactement, d'autant que dans certains domaines de l'art équestre, une tradition solide est établie, c'est que c'est de l'Italie que tout commence.
Alors justement, nous allons discuter de cela. Et puis aussi pour parler de cette grande chevauchée, on ne l'a pas encore évoqué depuis le début de la semaine, donc ce livre publié chez Drose, Faire de l'histoire avec Daniel Roche, sous la direction de Vincent Millieu, Philippe Minard et Michel Poré dans la Bibliothèque des Lumières chez Drose, donc qui est une sorte de résumé de la dernière année de votre séminaire au Collège de France, Daniel Roche.
C'est une initiative un peu inattendue, puisque ça a été une surprise malgré tout.
Gardé jusqu'au dernier moment, je crois.
Qui est parti de l'idée que je n'étais pas contre les hommages, mais que j'aurais préféré en quelque sorte qu'on invente une nouvelle formule de présentation de ce qui était la conclusion d'un rapport qui, pour certains, avait commencé très très tôt. Puis dans l'assistance, au moment de la remise de ces hommages, il y avait deux de mes premiers étudiants de maîtrise dans les années 70. Donc vous voyez, la continuité s'était établie.
Oui, c'était donc il y a une quinzaine de jours à Paris, Patrick Boucheron.
D'abord, je voudrais vous remercier parce que je suis très heureux et fier aussi d'être convié pour parler de la gloire et la puissance de Daniel Roche, finalement.
C'est le titre du
deuxième. Bah, c'est le titre. Moi, je ne fais que lire la couverture du livre. La puissance, d'ailleurs, d'un historien, c'est aussi d'être lu par d'autres que ceux qui sont dans leur spécialité propre. Et je pense que vous me présentiez comme médiéviste, rare.
Oui. Vous allez bien souvent au-delà de l'histoire médiévale.
Oui, l'œuvre de Daniel Roche est une de celles qui est lue très au-delà, évidemment, du cercle des modernistes pour les propositions méthodologiques qu'elle suggère. Dans l'introduction, je ne sais pas si c'est l'introduction, oui, c'est l'introduction de La Grande Chevauchée, Roger Chartier parle de votre itinéraire et dit finalement de la République des lettres aux choses banales, vous êtes passé des plaisirs utiles, enfin à l'utilité plaisante. Voilà. Et est-ce que le cheval, la culture équestre, c'est cela, c'est l'utilité plaisante, j'ai bien compris, dans le deuxième volume?
Je crois que dans le premier volume, j'avais essayé de montrer qu'on ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé à l'époque moderne sans mettre l'accent plutôt sur le côté économique, utilitaire et transformation de l'énergie qui est à l'œuvre de la Renaissance à la période contemporaine.
Le sous-titre de ce premier volume, c'était le cheval moteur.
Le cheval moteur au sens où on mesure encore notre énergie en cheval moteur et qu'on avait tenté de mesurer cela dès la fin du XVIIe siècle. C'est à l'Académie des sciences de Paris qu'on a fait les premières expériences. Le deuxième volume, non pas par souci d'être très strict dans l'organisation d'une trinité de publications.
Il y en a un
troisième commencé qui devrait arriver un jour, je l'espère. Le deuxième volume devait reprendre une partie de ce que le premier, en quelque sorte, donnait comme orientation. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'époque moderne? C'est que dans nos sociétés occidentales se construit un ensemble qu'un sociologue des années 80 avait très justement appelé la raison cavalière, dans lequel s'organise autour du pouvoir politique les fonctions de production dont nous avons parlé avec Mullier, qui identifie l'élevage et la production à un système politique, et d'autre part les fonctions de sensibilité et de passion, qui sont la troisième dimension par laquelle on contrôle en quelque sorte cette culture. Parce que c'est toute une partie quand même de l'idée de cette étude, n'est pas de faire plaisir à ceux qui montent à cheval ou à ceux qui connaissent bien le cheval, mais plutôt de montrer...
Ça peut faire aussi plaisir à ceux qui montent à cheval.
Ça peut faire aussi plaisir, mais je crois que ça les surprendra plus que ça leur fasse plaisir. C'est plutôt d'essayer de dire comment, à partir d'un objet central, on peut faire une histoire qui traverse toute la société, toutes ses particularités.
Patrick Beauchamp.
Ça surprend aussi ceux qui ne montent pas à cheval. Hein. Je peux quand même en témoigner, parce que effectivement la passion, la passion du cheval est presque exclusive. Je veux dire qu'elle est dévorante pour ceux qui s'y adonnent, et elle peut laisser indifférents ceux qu'elle laisse de côté. Et moi, j'ai été frappé en vous lisant. La vraie force, la vraie surprise au fond, c'est de comprendre comment, à partir du premier tome où on saisit le cheval comme figure de la modernité, ce qui est quand même assez surprenant, parce qu'on avait beau dire, on le savait en gros, que le cheval était dominant dans les villes de modernes, mais enfin, on l'a mesuré avec le premier volume. Le tour de force du second, c'est de considérer que, alors que le cheval devient effectivement une figure commune, banale de la scène urbaine, il demeure malgré tout une puissance de distinction et de séduction pour les élites, propre à construire effectivement ce que vous appelez une société d'écuyers.
Parce qu'il y a cheval et cheval aussi, Daniel Roche.
Alors c'est là où on va réintroduire dans la hiérarchie des usages la complexité de la relation, parce qu'il y a cheval et cheval, ce qui fait que le beau cheval de selle devient le modèle d'un certain nombre de références politiques et de références sociales, mais en même temps, les fonctions utilitaires donnent lieu à l'expression de ces phénomènes distinctifs d'une autre manière. Et là où j'ai eu quelques plaisirs à m'aventurer dans des domaines qui ne sont pas les miens, c'est pour le 19e siècle. C'est-à-dire, un des grands problèmes de la société du 19e siècle, c'est comment on peut conserver des principes de mesure de la position des hommes dans la société à part d'éléments distinctifs qui sont nés dans un tout autre contexte.
Absolument.
On va le résumer par une formule italienne, parce qu'elle est très claire, c'est quand vous allez dans un salon à Milan, encore aujourd'hui, il peut vous arriver qu'une vieille douairière vous dise « come nasce », ce qui veut dire tout simplement « quel est votre pédigré ? Comment êtes-vous né ?» Donc, on passe très facilement, pour ceux qui comprennent que le pédigré d'un gentilhomme peut valoir tout autant que le pédigré d'un cheval, dans la compréhension de ces mécanismes de distinction qui, parfois, sous la plume de nos copains sociologues, restent un peu abscons, un peu abstraits.
Anaïs Kien.
Sans vouloir dévoiler les coulisses de l'émission, lorsqu'on on a préparé cette semaine ensemble, Daniel Roche, vous m'avez dit « Ah oui, invitons Patrick Boucheron, on parlera de la statue équestre de Léonard de Vinci, une statue équestre de Francesco Sforza. » Donc, article qu'on s'est procuré, qui a été publié en 1997 et qui explique, mais la nécessité n'était pas si grande, qui crée en tout cas un espace de rencontre entre vous. Vous pouvez nous expliquer, Patrick Boucheron, un petit peu ce que vous avez voulu faire avec cet article très, très copieux, hein, puisque c'est un article qui fait une centaine de pages.
Dans le Journal des Savants.
Dans le Journal des Savants, merci de le préciser. La statue équestre de Francesco Sforza est une statue équestre qui n'a jamais été réalisée et qui a été constamment admirée. C'est André Chastel qui disait que l'histoire de l'art est aussi celle de ces grandes œuvres rêvées et jamais réalisées. Après, on peut évidemment faire une généalogie formelle. Et cette généalogie n'est pas seulement formelle, elle est aussi technique. Pourquoi ? Parce que cette statue, elle devait éterniser dans le bronze la gloire du fondateur de la dynastie de Milan, les Sforza, donc Francesco Sforza, qui avait pris en 1450 la ville à cheval.
En entrant à cheval,
en
avec
entrant
une cavalcade.
Dans la cathédrale. Donc c'est vraiment le comte d'Authiers qui conquiert l'État. Et évidemment, comme dit Machiavel, bon, ça c'est facile de prendre le pouvoir, mais le conserver c'est plus délicat. Et pour le conserver, il faut des jeux de mémoire, il faut ramener vers soi donc, la gloire du fondateur. Une statue équestre, donc. En 1473, on commence à la projeter, on peine à trouver un artiste, et c'est finalement Léonard de Vinci, en 1489, qui va s'imposer dans le jeu en proposant donc une statue extraordinaire, d'abord parce qu'elle est colossale, au sens propre, au sens romain du terme, c'est-à-dire qu'elle sera une fois et demie à deux fois plus grande que nature, l'ensemble faisant 8 mètres. Donc c'est monstrueux. Et ensuite, parce que pour lui, ce qui l'intéresse dans ce projet d'une statue donc en bronze, hein, évidemment, c'est un défi technologique, réaliser
un bronze aussi,
et d'une seule coulée. Voilà, la technique dite à jet continu ou à cire perdue, ce qui permet de conserver le moule et de faire admirer d'une certaine manière l'ensemble du processus de création. Et puis, un enjeu esthétique. Mais j'avoue que l'enjeu esthétique, j'ai tenté de le comprendre, c'est-à-dire il passe du cheval cabré au cheval au pas. Mais c'est en lisant le deuxième tome de Daniel Roche que j'ai vraiment compris de quoi il s'agissait.
Finalement. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, au départ, ce que veulent pas seulement Léonard, mais sans doute l'ensemble de la cour qui aspire à cette œuvre de communication politique, c'est figurer le triomphe. Et le triomphe tel que, par exemple, la numismatique peut la représenter, c'est un cheval cabré. Cela, ça crée des difficultés, notamment de contrepoids pour énormes, qui vont être en partie résolues par Léonard. Et il est possible, c'est là où je dis qu'il y a aussi une postérité technologique, que ces avancées, enfin que ces inventions passent à la cour de France et ensuite informent la grande saison des statues équestres, celle de Girardon, et jusqu'à Falconet, la statue de Saint-Pétersbourg, qui est également cabrée. Mais
Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg.
Voilà, de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg. Mais en fait, le choix sera celui d'un cheval mis au pas, d'un cheval assurant justement la pérennité du régime. Et donc, c'est, je le répète, en lisant la gloire et la puissance que j'ai compris pourquoi. Parce que, effectivement, ce qui donne de l'allure au cavalier, c'est évidemment le pas du cheval et qu'il y a une expressivité, au fond, du portrait équestre qui est déléguée par l'allure du cheval.
Daniel Roche.
Je crois que je ne peux pas dire mieux. C'est une bonne lecture. Et cela fait plaisir dans la compréhension. Mais ceci étant, le problème est celui de plus général auquel je me heurtais en particulier en amont, c'est celui de comment passe-t-on de la représentation de la politique symbolique à la romaine ou à la chrétienne à quelque chose de nouveau qui est la politique symbolique des princes. Et le cheval de Léonard de Vinci ouvre en quelque sorte une trajectoire, moins parce que il y a aussi ce changement technique que parce que les artistes vont se passer les arguments en quelque sorte politico-symboliques.
Alors on sait que Léonard de Vinci savait tout faire, il composait, il improvisait plutôt de la musique, et vous le savez très bien, Patrick Boucheron, avec la Lyra da Braccio, j'ai appris cela, donc c'est Anne Fleury, notre réalisatrice, qui me l'a appris, avec en particulier un instrument qui imite le crâne du cheval. On écoute un morceau de l'époque de Léonard de Vinci. Une œuvre milanaise du 15e siècle anonyme, Amor che to fato, pour évoquer cette Italie, parce que vous disiez tout à l'heure, Daniel Roche, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont parties de cette Italie, de la fin du 15e, du début du 16e, et qui se sont répandues dans le reste de l'Europe autour de cette question de la culture équestre, et pas simplement les statues équestres qui étaient évoquées par Patrick Boucheron à l'instant même.
On va partir de ce qui est le plus connu de tous les lecteurs un peu cultivés, ou en tout cas de tous les élèves qui sont passés par les classes de l'école primaire, où on rappelait l'importance des guerres d'Italie. L'importance des guerres d'Italie, c'est une certaine façon de dire comment le Nord a découvert le Sud, comment il s'est passé un transfert de civilisation dans le contexte d'une conquête militaire, mais cette conquête militaire, elle avait déjà commencé par les échanges civils et par les échanges intellectuels. C'est le problème d'effacer derrière l'armée et les découvertes stratégiques est très important. Il faut essayer de comprendre ça d'une manière un peu plus vaste. Alors il s'est passé deux choses. On a découvert notre civilisation. Dans cette autre civilisation, les chevaux avaient un rôle tout à fait particulier parce qu'ils étaient instruments de la domination d'une nouvelle classe dirigeante, si on peut rassembler un petit peu de manière un peu simple les faits. Et par ailleurs, ils offraient la diversité des modèles et des techniques que l'Occident pouvait à ce moment-là en quelque sorte souhaiter pour améliorer ses performances équestres.
On nous a déjà expliqué il y a deux semaines ici dans une histoire de la virilité combien la barbe des souverains avait été récupérée de ces soldats des guerres d'Italie qui combattaient en particulier les Suisses et les Allemands. Mais il y a plus que la barbe, il y a donc effectivement tout un tas d'autres choses qui tournent autour de l'influence de ces guerres d'Italie dans ce domaine du cheval, Patrick Boucheron.
Et en plus, parce que il y a les guerres d'Italie, c'est aussi un premier moment de brutalisation, en fait, du combat, qui a beaucoup frappé les contemporains.
Avec ces soldats suisses et allemands, justement, qui étaient considérés comme assez
bien sûr,
et les Français qui descendaient.
Voilà. Et pourtant, à ce moment-là, qu'on va redécouvrir une sorte de Moyen-Âge idéalisé, que ensuite l'Arioste, le Tasse vont célébrer et glorifier. Et il y a d'ailleurs des pages très intéressantes dans le dernier livre de Daniel Roche sur Bayard. Parce que Bayard est exactement, me semble-t-il, à ce moment-là de l'histoire, qui est le moment des guerres d'Italie.
Bayard que malheureusement on n'apprend plus à nos enfants, disent certains, en se référant à cette histoire de la Troisième République qu'on avait appris auparavant.
Et qui est le moment donc où le héros cavalier récupère la vertu chevaleresque, puisque évidemment, si on parle du Moyen-Âge, on ne peut pas ignorer qu'en France, du moins, pas en Italie, il y a un rapport strict entre cavalerie et chevalerie.
Daniel Roche, donc il y a cette dimension militaire liée à cette question de la réapprentissage par l'intermédiaire de figures comme ça, d'un certain art militaire. Mais le cheval, ça va plus loin aussi, on y apprend d'autres choses.
Ça va plus loin parce que dans le contexte de la cour, Castiglione montre bien comment les arts équestres se rangent dans un ensemble de procédures de formation à la fois des techniciens militaires, mais aussi des hommes d'État, mais aussi de ceux qui doivent entourer le prince, s'occuper de ses loisirs et participer à cette nouvelle atmosphère qui était quand même relativement moins développée dans les cours septentrionales. Alors, le modèle du courtisan qui a été diffusé par l'imprimerie dans toute l'Europe, c'est un des plus grands livres diffusés du 15e, 16e siècle, s'est répandu partout et avec lui, cet appel en quelque sorte à la formation pour les noblesses à de nouvelles pratiques équestres qui ont été entendues. Mais ce que l'on a transféré, ce n'est pas un modèle de pédagogie organisé dans toute sa complexité, comme cela va apparaître à la fin du XVIe siècle en France et au XVIIe siècle, c'est un modèle d'équitation qui était enseigné dans des manèges privés, dont certains étaient au plus haut niveau de la société, les manèges des princes, mais qui ne donnait pas forcément autre chose qu'une ambiance, en quelque sorte.
Anaïs Kien.
Oui, peut-être qu'avant de parler de cette question du manège, on pourrait identifier les acteurs, c'est-à-dire que la rencontre aussi que vous décrivez dans La gloire et la puissance, Daniel Roche, nous propose une galerie de portraits des personnes qui entourent le cavalier, le noble cavalier, et qui l'aident à porter ses symboles et à s'entretenir en tant que cavalier.
Alors, c'est là où la présence d'un médiéviste m'est plus qu'utile. C'est que je n'ai pas trouvé d'informations sur la manière dont se faisait dans les entourages nobiliaires et princiers, au-delà de quelque chose qu'on répète toujours. Il a été élevé à la cour du prince Intel, il est passé chez Charles V, etc. Je n'ai jamais rien trouvé sur la manière dont on faisait, en quelque sorte, quelles étaient véritablement les pratiques. Alors on se réfère à des textes qui sont assez divers, qui viennent de la littérature, qui viennent du conte, qui viennent de tout un tas de choses, à partir de quoi on restitue. Et l'ennui, c'est qu'il existe des tonnes de contes de ces familles princières, qu'elles ne demandent qu'à être étudiées, et que là, on aurait peut-être quelques indications sur la manière dont ça s'organise. Ceci étant, ce qui est important, c'est que dans les grandes métropoles italiennes, à Rome, à Naples surtout, puisque Naples a vraisemblablement été le lieu principal où se sont rassemblées des familles, mais on ne sait pas très bien comment ça... On rappelle toujours les faits, mais on ne sait pas comment ça marche. C'est-à-dire que vous prenez un des plus grands livre consacré à ces questions du XVIe siècle, de Caracciolo, qui s'appelle « La Gloria del Cavallo ». Vous avez la généalogie totale de tous les écuyers napolitains classés par ordre d'importance. Personne n'a jamais été voir quels étaient ces écuyers napolitains, quels étaient leurs
liens. On a la liste, mais on ne sait pas. On n'a pas fait l'histoire sociale de ces écuyers
napolitains. Mais on n'a pas d'histoire autour d'eux. Donc le problème qui vient d'être posé est celui-là, c'est-à-dire comment on passe d'un constat qui est livré par une tradition littéraire, en particulier spécialisée la tradition des traités équestres, à une compréhension culturelle et sociale qui importe à l'historien.
Et le médiéviste vient et au secours de Daniel Roche, et il s'appelle Patrick Bouchon.
Non, au secours, je ne sais pas, parce qu'effectivement, vous avez raison. On s'est surtout intéressé au cheval comme objet de luxe, du point de vue de la société des princes. Alors, on sait tout, des cadeaux que l'on se fait, également des écuries que l'on visite, parce que c'est quand même un moment de l'exercice du pouvoir qui est important, hein, la visite de l'écurie. Mais pour le reste, effectivement, pour repeupler un petit peu cette scène l'équitation, les documents sont là. Ils sont là pour les comptes de la cour de Bourgogne. On pourrait effectivement faire la prosopographie. Ils sont là aussi pour la cour d'Urbino, qui est vraiment une grande cour cavalière. Federico da Montefeltro est celui qui règne à la fois en traversant la ville à cheval et en sachant aussi parfois descendre de cheval. Bon. Et on a tous les noms, hein, des écuyers, et on a les noms aussi des chevaux, parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que de temps en temps, dans les contes italiens du XVe siècle, on a le sentiment que, comme Léonard d'ailleurs, qui faisait des portraits de chevaux, on est plus informé sur la généalogie
des
chevaux que sur ceux qui les dressent. Parce que d'ailleurs, c'est ce que disait Daniel Roche, l'idée de race et de race noble, elle vient aux hommes par leurs chevaux.
Alors, il y a cette dimension, et il y a une dimension qu'on n'a pas encore évoquée, qui était liée à votre travail sur la statue de Francesco Sforza. Patrick Boucheron, c'est aussi un héritage beaucoup plus lointain, qui est un héritage politique, là aussi, l'héritage de l'Empire. Quand on s'intéresse à la façon dont on va représenter un prince italien sur son cheval, il y a aussi ce vieux souvenir des statues de Marc Aurèle, dont vous rappelez dans cet article qu'elle était juste rénovée, retapée par le pape Paul II, je crois.
Oui, et qu'on la prenait pour la statue de Constantin, ce qui est quand même aussi important du point de vue...
Et donc, à partir de ce moment-là, il y a cette dimension que l'on prend un peu de cette puissance de l'Empire romain dans une Europe dévastée par les guerres entre pays voisins, pour pouvoir se récupérer cette puissance-là par l'intermédiaire de ce passage sur la terre d'Italie, Patrick Boucheron.
Et il y a aussi ce rapport qui est très articulé dans le livre de Daniel Roche, entre justement cette éducation princière par l'allure à cheval et la statue équestre qui ne fait au fond que... mettre au jour et rendre visible ce qui est d'abord une inculcation au corps. Et ce qui est extraordinaire, me semble-t-il, c'est l'effet de diffusion entre le corps du prince, ce centaure que crée la statue équestre ou d'une certaine manière...
C'est la centaurisation d'ailleurs, je crois, Daniel Roche. Oui.
Et la ville ordonnée, car la statue équestre ordonne la place, mais au sens où elle l'exige, elle la commande et elle la met en beauté.
Daniel Roche.
Alors, le point de départ, c'est effectivement cette charge impériale que vont prendre les statues équestres des princes français, mais aussi de tous les princes de l'Europe du Nord, parce que ça n'est pas du tout limité à la France, et qui rend visible les manifestations calmes du pouvoir politique. Parce que c'est là l'enjeu, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Toute la technique de l'équitation et du dressage reposant là-dessus, c'est-à-dire on ne doit pas faire apparaître, d'où la disparition de la violence, les moyens par lesquels on obtient un certain type d'effet. Et dans le domaine du sociopolitique, cela fonctionne parfaitement. Parce que, comme l'avait montré Duby, les trois ordres s'organisent en partie autour de la représentation du seigneur à cheval qui domine le peuple qui est considéré comme la monture. Et avec la puissance politique, ça devient beaucoup plus subtil, beaucoup plus subtil. Et cela continue dans la mesure où on va remplacer la puissance politique par la puissance sociale et distinctive.
Alors justement, Daniel Roche, est-ce qu'on peut expliciter un petit peu la grammaire de ces statues équestres? C'est-à-dire qu'on a plusieurs postures, le cheval est encabré, le cheval ruant, le cheval paradant, et le cavalier également aborde des postures qui symbolisent finalement un programme, un discours sur la personne représentée.
Alors, dans le discours qui s'impose, le cheval calme en avant et droit, c'est le cheval au passage, c'est-à-dire c'est le cheval qui est dans un pas retenu et tout à fait calme.
Maîtrisé.
Et qui est totalement maîtrisée, totalement dominée, totalement contrôlée, sans que ça soit le cavalier ayant la position la plus naturelle possible, avec la souplesse de l'adaptation, mais ça on entre...
C'est celui du Coléon, déjà.
C'est celui un peu déjà du Coléon.
Alors et, le Coléoné, il faut le rappeler, c'est cette
c'est
formidable
statue. C'est la statue de Venise. C'est de Saint-Paul,
Saint-Paolo.
De Padoue.
Le Coléone, c'est Padoue, et celui de Venise, c'est
le Guatemalate.
Le Guatemalate.
Et la deuxième posture, peut-être, typique
La deuxième posture, celle qu'on voit triompher dans par exemple, la photo d'illustration qui est coupée parce qu'on ne voit pas les...
De la gloire et la puissance, votre livre chez Fayard.
Les antérieurs du cheval du jeune Don Carlos. C'est quand le cheval part au galop, le plus souvent. Ce n'est pas vraiment une cabrade. La cabrade, c'est une figure des grands airs de manège qui est beaucoup plus compliquée. Mais quand le cheval part au galop et quand il choisit son, en quelque sorte, ou quand son cavalier choisit son pas de départ, à ce moment-là, il y a cette espèce d'envolée qui est retenue et qui montre,
avec la crinière au vent,
la version dynamique généralement associé à la carrière militaire ou à des figures militaires, du cavalier au galop. Ça ne met pas en cause la technique, en quelque sorte, de la domination. C'est une autre figure de la domination. Là où ça se complique, c'est quand les artistes commencent à rechercher des positions qui montrent que le cheval
domine
ou peut donner l'impression de dominer son cavalier. Et à partir de ce moment-là, ça ne colle plus. Et c'est ce qui arrive dans deux grands exemples qui viennent déjà d'être évoqués, la statue du Bernin et la statue de
Falconet.
La statue du Bernin pour Louis XIV, qui a tout parfaitement compris qu'au lieu de montrer la victoire d'un jeune roi pacifiant le royaume après les révoltes de la France et tout ça, on montre un espèce d'énergumène que l'on ne va pas identifier parce qu'il est en train de perdre sa perruque, et le sculpteur italien n'a rien compris au génie, en quelque sorte, de la majesté française qui va donner cette grande ampleur à la grâce. De même, quand Falconet montre le tsar triomphant de la nature par la conquête des éléments, il identifie parfaitement la difficulté de la tâche du grand Pierre le Grand à la révolte, en quelque sorte, du cheval qui est contrôlé.
Ces chevaux de bronze sont aussi des chevaux de papier, parce qu'ils sont relayés, la cavalcade est relayée par tout ce qu'on en dit. Alors évidemment, on vient de parler de la statue de Falconet. On pense au cavalier d'airain de Pouchkine, c'est 1833, je crois. Et justement, cet extraordinaire poème qui dit l'emprise, au fond, de la statue équestre sur la ville, ce n'est pas un poème, c'est une nouvelle en vers qui raconte comment quelqu'un essaye de s'en moquer de cette statue et est rattrapé par le galop d'airain de la statue, rattrapé au bout de la ville. Donc ça dit bien cette extraordinaire emprise symbolique de ce que vous appelez Daniel Roche, en citant Louis Marin, la force en réserve des signes.
Oui. Alors, il y a autre chose dans votre livre, Daniel Roche, La gloire et la puissance, l'histoire de la culture équestre, deuxième tome chez Fayard. Vous insistez, à propos de cette Italie, sur le fait que c'est un creuset italien. On en parle depuis le début, on se pose la question de savoir en quoi c'est un creuset, ce creuset italien de la fin du Moyen-Âge, du début de la Renaissance, du moment de ces guerres d'Italie. Et vous expliquez qu'on peut y entendre autre chose que ce qu'on entend habituellement, c'est-à-dire un lieu de passage, un lieu de mélange, un lieu de mélange de civilisation qui va impressionner justement ces gens du Nord. Je vous propose d'écouter un air des Janissaires, donc pour évoquer l'Empire ottoman qu'on va tout de suite évoquer avec vous après.
Merhaba ey mehteran. Merhaba. Mehterbaşı.
Thank you.
Musique des Janissaires pour évoquer l'Empire ottoman. Ces Janissaires dont les unités, les métaires, étaient à la fois palefreniers, maîtres d'armes, gardes du corps et responsables de l'orchestre vis-à-vis du pouvoir du sultan. Alors vous nous montrez justement dans votre livre, Daniel Roche, comment cette Italie était un lieu de croisement, en particulier avec un mode de rapport au cheval différent lié à cette proximité de l'Empire ottoman.
Je pense que je suggère plus que je ne démontre.
C'est vrai.
Parce
c'est vrai,
que c'est vraiment vous suggérez, là, voilà. C'est vraiment là où on a un problème d'historiographie à développer et de questions à poser. Les historiens importants de la guerre médiévale ou de la cité médiévale, comme Merwiger, sont conscients de l'importance du phénomène
et de
ce qui se passe. Mais aucun n'est descendu, en quelque sorte, à rechercher les aspects de culture matérielle qui permettent de comprendre ce passage. Alors, il faudrait remonter aux croisades, parce que vraisemblablement, l'Italie ayant été la terre par laquelle on est passé pour aller vers l'Orient, qu'est-ce qui s'est passé dans ce gigantesque échange de chevaux qui fait que quand même, en plein XVIIIe siècle, le cheval dont on dit qu'il a toutes les qualités, qui c'est celui qu'il faut croiser avec nos plus belles juments, et les Anglais, c'est ce qu'ils font, et c'est ce qu'ils font avant que nous ayons compris ce qu'ils faisaient. Les Anglais font des croisements d'orientaux avec des poulinières locales. Mais là-dessus, à quelques exceptions, à quelques détails près, on a très peu de renseignements.
Patrick Boucheron, vous qui êtes aussi un historien de la ville médiévale, avec Denis Mangeau, vient de republier le deuxième tome de l'histoire de l'Europe urbaine, justement sur la ville médiévale. J'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai peut-être mal cherché.
Sur le cheval.
Je suis allé chercher, je me suis dit, est-ce qu'il parle, des animaux en ville? Vous parlez des animaux en ville, mais vous ne parlez pas
des chevaux. Oui, c'est vrai. Oui, on parlait de Jean-Claude Merwiger, c'est important parce que son livre qui s'appelle « Cavaliers et citoyens » montre l'importance sociale, en fait, du fait de monter à cheval pour le patriciat urbain. Voilà. Mais ce que vous dites sur les croisements orientaux et l'importance vraisemblablement de la cour ottomane aussi sur les échanges. C'est vrai que ça nous donne envie de prendre le large sur ce, sur ce
ça
sujet.
Ça n'est pas un historien de l'histoire mondiale, voilà. De l'histoire monde qui ne dit pour rien.
Il y a quand même de très belles pages sur ce que produit sur les Indiens terrorisés les chevaux de Cortés. Mm-hmm. Il y a aussi toute cette réflexion sur la place du cheval dans l'Amérique du XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a évidemment, je pense qu'on est là au cœur d'une civilité européenne. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y aurait aussi une histoire mondiale du cheval à rêver.
Ah, totalement, d'autant que les sociétés cavalières qui naissent de la renaissance du cheval en Amérique vont être des sociétés totalement différentes de nos sociétés européennes. Ce sont des sociétés sans écuyers. Les Indiens et les Métis qui
qu'ils récupèrent le cheval par l'arrivée des Espagnols.
Ils récupèrent le cheval par l'arrivée des Espagnols et ils l'utilisent dans leur culture d'une façon totalement différente, qui culminera au XIXe siècle lorsqu'ils flanqueront la raclée aux troupes de la cavalerie américaine avec une force qui, évidemment, ne plaît pas toujours au général Sherman.
Le livre de White, par exemple, sur The Middle Ground,
The Middle Ground, qui est publié aux éditions Anacharsis,
voilà. Montre l'importance du cheval dans la transaction entre les Indiens et les Français du Canada.
Je crois que ce qui serait très important, peut-être, c'est s'il était possible d'imaginer un programme rassemblant modernistes et médiévistes, ça serait d'essayer de comprendre comment s'est réellement constitué ce que l'on appelle la société à écuyer à partir
Qu'est-ce qu'on appelle la société à écuyer? Parce qu'on en a parlé une fois, mais on n'a pas précisé avec vous.
Pour distinguer les civilisations du cheval, les anthropologues ont forgé ce concept qui a été repris par Jean-Pierre Digard dans ses diverses publications. On distingue les sociétés où le cheval n'est pas dans la société hiérarchisée par les pouvoirs politiques et symboliques. Le cheval est partout. Il est dans l'éducation des jeunes paysans, cavaliers, mongols, comme il est dans la possession des chefs. Il n'y a pas du tout cette identification d'un pouvoir politico-social avec l'éducation, le dressage et la possession du cheval. Donc, les sociétés à écuyer, ce sont des sociétés où une classe intermédiaire qui est en partie vraisemblablement liée à la formation des milites médiévaux, au passage de la formation des chevaliers, cette classe a confié en quelque sorte la gestion du patrimoine équestre à des spécialistes. Et là-dessus, alors, ces spécialistes, on va les trouver numérés dans ces listes des grands écuyers de l'Italie de la pré-Renaissance et de la Renaissance. On va les connaître en partie en France, mais très très peu, hein, très très peu. Et c'est eux qui, d'Italie à la France, constituent la nouvelle culture équestre.
Patrick Boucheron.
Et là, on est au cœur, je pense, de la passion. Parce que vous dites, à la toute fin du livre, c'est de la connaissance, mais c'est aussi de la passion. C'est de savoir si le cheval est... est-ce que c'est un animal pour vous ?
C'est pas tout à fait.
Et voilà. Parce que pour le bestiaire médiéval, ce n'est pas un animal. C'est un partenaire. Il ne fait pas partie du bestiaire. Il est quelque part dans l'ordre... C'est d'une certaine manière, je dirais, un raté dans le grand partage de Philippe Descola entre nature et culture.
Un intermédiaire, peut-être.
C'est une poche d'animisme, en fait. C'est-à-dire que voilà, Frédéric II parlait, le vôtre, celui de Prusse, oui, parlait en allemand à ses chevaux.
Oui. Daniel Roche.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et ça correspond très bien à cette situation tout à fait particulière qui va le maintenir pendant 4 siècles au même niveau de la représentation symbolique, qu'ignore superbement d'ailleurs les spécialistes de l'histoire de l'animal, parce que aucun spécialiste de l'histoire de l'animal ne s'est attaqué à cette manière de voir le problème. Encore que j'ai entendu récemment une jeune Anglaise qui se préparait à faire l'histoire animalière d'une vache du Yorkshire au XVIIe siècle à partir de ce que pensait la vache du Yorkshire. J'attends qu'elle démontre la réalité de cette entreprise qui me paraît infiniment difficile.
Patrick Boucheron.
C'est une entreprise qui, comme vous le dites en citant Stendhal, cesse de rendre le romanesque impossible. Voilà. C'est-à-dire que il y a aussi cette dimension-là qui est dans votre livre, notamment sur les derniers chapitres sur le cheval de guerre, qui se termine par Claude Simon. Et la route des Flandres, mais aussi le jardin des Plantes, je crois. La route des Flandres, c'est quand même un cheval qui raconte, d'une certaine manière. Enfin, ça se termine. L'histoire est au fond vue
et quasiment vue sous l'œil du cheval.
Voilà. Comme s'il n'y avait plus qu'un seul cheval. C'est une des dernières phrases de la route des Flandres.
Mais les médiévistes devraient relire, de ce point de vue-là, Les fleurs bleues de Raymond Queneau, parce que c'est un des plus grands livres de la littérature française où l'on fait parler des chevaux pendant 300 pages. Et les deux chevaux, l'un s'appelle Démosthène parce qu'il est capable de parler, même avec son mort dans la bouche, et l'autre s'appelle Étienne parce que lui, il est silencieux. Et c'est un livre absolument formidable pour et Queneau n'était pourtant pas un cavalier, ce qui montre bien que les questions dont nous discutons ne doivent pas forcément intéresser que les gens qui sont montés sur les chevaux.
Y a une dimension qu'on a évoquée hier avec Daniel Roche et Mathieu Fleunot, celle de la disparition du cheval que dans la civilisation occidentale à partir du milieu du XXe siècle, ou du moins de la transformation de son usage en tous les cas. Vous qui êtes spécialiste de l'Italie et dont on a parlé justement de cette Italie médiévale, de la Renaissance, dans laquelle ce cheval avait tant d'importance, est-ce qu'il reste encore des traces de cette importance-là dans la société italienne que vous pouvez parcourir en tous sens, Patrick Boucheron, ou est-ce qu'au contraire ça s'est évanoui comme s'est évanoui la place du cheval en ville qu'on évoquait hier avec Daniel Roche et Mathieu Fleunot.
Daniel Roche, effectivement, le signalait tout à l'heure en évoquant son amie comtesse milanaise. Bien sûr, il y a une permanence très forte, mais qui est, d'une certaine manière, à mon avis, réinterprétée par le modèle anglais. C'est ce qui est effectivement alors, décrit aussi qu'on a évoqué. Autre modèle. Voilà, ouais. Au XVIIIe siècle, c'est voilà ce modèle de la de l'équitation, enfin de la du course, club, de la club. Course. Hein. Et je pense que, me semble-t-il, dans les sociétés européennes, en tout cas, c'est ce modèle-là qui met, enfin, en Italie, le modèle donc de la société des chevaux, il n'a plus grand-chose à voir avec celui de l'Italie de la Renaissance.
Daniel Roche.
L'équitation telle qu'on l'enseigne est effectivement dictée par une accommodation entre l'ancienne équitation de manège, un peu, disons, à la française, et l'équitation à l'anglaise. Mais l'Italie a eu un génial inventeur dans ce domaine du XXe siècle, sur lequel tout ce que vous voyez comme image repose, c'est le capitaine Caprilli de Pignerolo qui a inventé, mais au sens propre, hein, génial, la monte sportive telle qu'on le voit. Ah c'est-à-dire bon que avant, quand on accompagnait le cheval dans des sauts d'extérieur ou d'intérieur, les cavaliers, vous les voyez, sont penchés parce qu'ils encaissent le mouvement, ils se penchent en arrière. Et Caprilli a inversé totalement cette démarche qui fait que l'on contrôle mieux le cheval si on l'encadre par les aides et si on le suit dans son mouvement, c'est à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Caprilli a laissé des archives à Pignerolo. Si j'avais 40 ans de moins, je crois que j'irais m'installer à Pignerolo.
Mais ce qui est extraordinaire en écoutant Daniel Roche et votre dialogue, Patrick Boucheron, c'est qu'on a envie de se remettre aux études. On se dit, il y a tout ça qui vient de nous être livré à l'instant même, c'est-à-dire tout cet univers totalement absent des études historiques. On en parlait le premier jour avec Daniel Roche et Jacques Mullier. Un univers comme ça, oublié en tous les cas. Et il y a énormément à tirer de cette rencontre du cheval.
Oui, je crois que en fait, Daniel Roche réalise les deux rêves de l'historien. Le premier, c'est de remettre à jour un monde perdu. Mmh. Et bien sûr que ce monde, y compris dans sa dimension urbaine, ce qui m'a beaucoup frappé, il est englouti aujourd'hui, mais c'est aussi de défamiliariser le rapport qu'on peut avoir banalement avec... On croit savoir ce qu'est un cheval, historiquement.
On réapprend,
évidemment, à lire ce livre. Le fait, par exemple, une chose toute simple, ce modèle de la gouvernementalité, en fait, parce que c'est ça, hein, l'écurie princière, et d'ailleurs... On dit encore une écurie électorale aujourd'hui. Mm-hmm. C'est un modèle de pouvoir, d'exercice du pouvoir, il disparaît. Et il disparaît y compris jusque dans ça, me semble-t-il, dans son expression artistique, puisque vous dites que de 1813 à 1948, je cite de mémoire, il y a presque 498 statues érigées à Paris, il y a 4% de statues équestres.
Oui. Bah, c'est-à-dire que Rousseau, on en parlait l'autre jour, Rousseau est passé par là, on va plutôt à pied qu'à cheval à partir du moment où la société démocratique s'installe.
Oui, Rousseau est passé par là, mais en même temps, il n'a pas réussi à convaincre totalement que les piétons devaient l'emporter. Parce que justement, ça s'est maintenu par d'autres types de représentations. Ce qu'on découvrira peut-être par la suite du développement.
Oui, donc un grand programme européen sur cette question du cheval. Voilà, une ANR possible.
Tout de suite, des gros mots, franchement.
Non, mais c'est vrai, on pourrait imaginer effectivement un travail en commun de chercheurs tout pays pour pouvoir discuter de ces questions-là et partager, au-delà de l'expérience de Daniel Roche, partager justement ce savoir commun.
Et moi, je n'ai plus le droit de faire des ANR. Je ne me lancerai pas dans la construction d'une ANR avec les Allemands parce que
j'ai été présenté... Alors, il faut dire pour nos auditeurs qui ne sont pas universitaires que l'ANR, c'est un programme de recherche.
Un programme de recherche. J'ai été présenté les grandes idées du premier volume à l'université de Göttingen. J'ai eu 3 étudiants. Donc, ça n'a pas été... Ça a été un très beau bide, mais ça n'a pas été un très grand succès.
Patrick Boucheron, je disais tout à l'heure que dans la ville médiévale, vous évoquiez assez peu cette question du cheval. C'est parce que vous-même, en tant qu'historien, il vous est apparu sous forme d'une statue de bronze qui n'a jamais été coulée, ça vous avait un peu échappé.
Ça m'a échappé. Ouais. Oui, ça m'a échappé. C'est pour ça que je pense qu'il y a là une affaire de sensibilité et que je pense encore une fois que la passion équine est assez exclusive et qu'on peut y échapper totalement, ce qui permet de ne pas voir simplement ce qui est pourtant est visible dès lors qu'on y prête un peu attention.
Ah oui, ça c'est très visible en lisant Daniel Roche. Anaïs Kien.
Oui, Daniel Roche, on voit sur la quatrième de couverture de ce deuxième tome des cultures équestres que vous prévoyez déjà le titre, vous annoncez le titre du troisième tome qui sera Connaissance et Passion. Justement, dans quel espace analytique sera-t-on à ce moment-là?
Je serai d'abord dans l'espace de la connaissance intellectuelle, puisque tout ce que l'on raconte à partir des volumes précédents s'est tiré d'une gigantesque publication d'imprimés, avec évidemment des prédécesseurs du côté des manuscrits médiévaux qui ont été retranscrits, etc. Donc il y a constitution d'une sorte de domaine canonique de la connaissance des choses à partir de la culture équestre. Alors, pour ne prendre qu'un exemple dévoilant le premier chapitre, à la Renaissance, la majorité des ouvrages qui sont publiés en Europe occidentale, parce que je travaille sur la bibliographie anglaise, en partie sur la bibliographie allemande, sur la bibliographie française et sur la bibliographie espagnole, mais hélas, c'est pratiquement impossible à l'heure actuelle de faire le travail avec les Italiens. La majorité des ouvrages sont consacrés aux utilisations festives, aux tournois, aux carrousels, aux entrées, à tout ce qui accompagne encore cette civilisation dans son expression spatiale et politique. Les traités d'équitation, c'est très très peu de choses. Les traités militaires, c'est très très peu de choses. En revanche, apparaît la première étape de la construction de l'hypiatrie et de l'agronomie du cheval, qui est née en même temps et supportée avec la naissance de l'imprimé et se diffuse. Alors, on a là une autre manière de relire ce qui s'est passé à partir des moyens de la connaissance et à partir des moyens d'expression. Donc, après cela, il faut regarder du côté de la science, ce qui pose le grand problème de la vétérinaire, comment on a réussi à construire une vraie nouvelle science des chevaux, et de l'expression des arts et de la passion à travers les sensibilités. Vous savez, au milieu du 19e siècle, on se battait pour tel ou tel type de dressage. Ça n'était pas du tout indifférent d'être partisan de M. Baucher ou de M. Dor. On se battait.
Merci, on vous écoutera encore très longtemps, Daniel Roche, et on attend avec impatience le troisième tome de cette histoire de la culture équestre. Et on termine avec vous en vous remerciant d'avoir participé à toute cette semaine de la Fabrique de l'Histoire, en remerciant Anaïs Kien qui l'a préparé avec moi, ainsi que Patrick Boucheron qui était avec vous aujourd'hui. On termine par Lully, Percée de Lully 1682. Pourquoi terminer par Percée de Lully? Eh bien parce que dans les mouvements du danseur, on trouve le trot de cheval, le berceau ou encore les ailes de pigeon. Vous pouvez bien entendu écouter et réécouter cette émission sur le site www.franceculture.fr. Vous pouvez également télécharger cette émission pendant une semaine et vous pouvez évidemment laisser vos commentaires. Demain, nous traiterons d'histoire des festivals à l'occasion d'un colloque sur ce thème.